Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée à distance par Marguerite Caton, Xavier Martinet, Aliette Ovine, Paloma Soria-Brown et Bertille Bourdon. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Olivier Arnay.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième épisode de notre série inédite sur l'économie de la santé. Lundi, nous avons réfléchi à la valeur que nos sociétés accordent à la vie humaine, puis nous avons caressé le rêve d'une indépendance sanitaire en France ou en Europe. À présent, nous pénétrons dans les rouages de notre système de santé. L'épidémie de Covid-19 a relancé le débat sur le délabrement de l'hôpital public et les défaillances en matière de prévention. La France consacre chaque année plus de 11% de son PIB aux dépenses de santé. Mais dans cette crise, les soignants manquent de tout, de masques, de lits, de respirateurs. Alors l'épreuve que nous traversons sera-t-elle l'occasion de repenser notre système de soins ? C'est la question vitale qui va nous occuper jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho ? Hôpital en crise, la faute au système, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons deux invités. Bonjour Fanny Vincent.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'INSERM, au laboratoire CERMES, et co-autrice avec Pierre-André Juvin et Frédéric Pierru de ce livre « La casse du siècle » paru l'an dernier aux éditions Raison d'agir. À vos côtés, Patrick Castel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur à Sciences Po au Centre de sociologie des organisations. Un grand merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui.
Face à la pénurie générale de matériel, c'est un peu le système D. Et on essaye de se protéger comme on peut. Ça, c'est un masque, vous voyez, qu'on pose comme ça, là, voilà, qui me permet d'être protégé complètement. Et ça a été imprimé en 3D, chez nous. Alors ben, moi, je préférais avoir le truc super moderne que les Chinois semblent avoir. Ils sont, sur toutes les photos qu'on voit, les Chinois sont équipés comme des cosmonautes.
Il n'y a plus d'histoire de médecins, aides-soignants. Tout le monde propose son aide pour faire des choses. Je vous dis, là, l'autre jour, il y a des chirurgiens qui viennent faire les toilettes. C'est super, c'est pas quelque chose qui est habituel. Et il y a un côté qui est très solidaire et qui est très sympa.
Pour ce qui concerne les docteurs, on est à 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Avant, on était 4 réanimateurs et 20 anesthésistes qui ne faisaient pas de l'aria. On a appris à traiter ces malades parce que entre la chirurgie cardiaque et la réanimation infectieuse, il y a quand même un petit décalage. Et maintenant, on est 24 réanimateurs. Tout le monde est au charbon.
Des témoignages rassemblés par notre réalisateur Jean-Christophe Francis. Quelle première leçon peut-on tirer des difficultés auxquelles sont confrontés les soignants ? Qu'est-ce que ça dit de notre hôpital public, Fanny Vincent ?
Alors, ce que ça dit déjà, c'est qu'il faut prendre de la distance avec ce terme de crise qu'on met aujourd'hui sur cet épisode qui est le Covid-19. Pourquoi ? Parce que ce terme de crise, en général, il a tendance à créer une fracture temporelle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait avant. Tout simplement parce que ce qui se passe avant, ça sous-entend que c'est quelque chose qui serait assez stable, une routine, un état assez normal. Or, ce qui se passe avant la crise du Covid-19, c'est une crise déjà structurelle de l'hôpital qui dure depuis... des décennies. D'ailleurs, le terme de crise n'est pas nécessairement bien approprié quand une crise dure depuis aussi longtemps, mais une fracture temporelle qui tente à dépolitiser en fait la situation actuelle et l'état de l'hôpital et les difficultés que l'hôpital a aujourd'hui à prendre en charge cette crise et cette épidémie parce que un certain nombre de réformes ont conduit à sa casse, à désorganiser l'hôpital, à rogner sur les moyens et sur les moyens dont dispose le personnel pour faire son travail.
Vous non plus, Patrick Castel, vous ne voulez pas utiliser ce mot de crise dans le sens où l'épidémie de Covid-19 et les dysfonctionnements de l'hôpital public qu'elle révèle ne constituent pas vraiment une rupture ? Ces dysfonctionnements existaient avant ?
Plusieurs éléments de réponse. Si on prend la crise dans le sens que l'entendent les sociologues, c'est-à-dire un peu une perte de sens, le caractère urgent, le rétrécissement du temps, je pense qu'on peut utiliser le terme de crise. En revanche, c'est vrai que les problèmes de l'hôpital et plus généralement du système de santé, on y reviendra parce que je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'hôpital, parce que aussi les problèmes qui se révèlent sont beaucoup plus systémiques, s'inscrivent dans le temps long, effectivement, et depuis au moins les années 70, et à peu près dans tous les pays occidentaux, on voit des réformes qui cherchent à contrôler l'offre de soins en jouant sur la capacité d'accueil et sur d'autres éléments très matériels.
On va voir en effet ce que cette crise nous dit de notre système de santé dans son ensemble. Mais d'abord, concentrons-nous sur l'hôpital public. Cette épidémie a mis en lumière le manque de lits à l'hôpital. C'est la conséquence, Fanny Vincent, des économies qui ont été décidées par Emmanuel Macron, mais avant lui, par ses prédécesseurs également.
Oui, bien sûr, le gouvernement actuel s'illustre par la continuité des réformes qu'il met en place, même si il y a certains éléments qui ont pu changer dans le langage et dans la présentation des réformes, notamment la prise en compte d'un hospitalocentrisme, c'est-à-dire d'un système de santé qui est centré sur l'hôpital. Même s'il y a pu avoir une critique de cet hospitalocentrisme, les réformes qui sont mises en place par le gouvernement et les mesures qui ont été apportées à la mobilisation de l'année dernière des urgences et plus largement de l'hôpital, continue de se baser sur une grille d'analyse, une grille de lecture des dysfonctionnements et des problèmes à l'hôpital qui est uniquement organisationnelle. C'est-à-dire que si l'hôpital va mal, si l'hôpital dysfonctionne, si les patients aujourd'hui ne trouvent pas forcément des soins à la hauteur de ce qu'ils attendent, ou surtout si les soignants n'ont pas des conditions de travail comme ils l'espéreraient, eh bien c'est pas parce que l'hôpital manque de moyens, mais ce serait parce que l'hôpital serait uniquement mal organisé et mal géré. Donc ça, c'est vraiment un leitmotiv des réformes qui se succèdent depuis au moins les années 70, en effet, et qui s'accentuent nettement dans les années 2000-2010.
Et cela alors que les chiffres sont assez parlants. 4 172 lits ont été supprimés rien qu'en 2018, selon le ministère de la Santé. Et on estime, selon un rapport de l'OCDE, qu'en 15 ans, le nombre de lits a baissé de 15% à l'hôpital, alors que la population a augmenté de 10%.
Absolument.
Sachant que ce manque de lits est particulièrement important en services de réanimation. Fanny Vincent.
Oui, alors les chiffres des services de réanimation sont plus contrastés. Il n'y a pas nécessairement, sur les 10 ou 15 dernières années, il me semble, de réduction du nombre de lits de réanimation. Par contre, si on remonte plus largement, le nombre globalement reste stable. Mais il faut le mettre en rapport avec l'augmentation de la population et l'augmentation des besoins de santé, bien évidemment. Et puis le resituer dans le contexte global de l'hôpital et de l'offre de soins qui a été, comme l'a très bien dit Patrick Castel, revu à la baisse, rationalisé depuis au moins les années 80, des services entiers, des lits dans certains services, voire des hôpitaux ont complètement été fermés. 69 000 lits entre 2003 et 2017, donc ça c'est juste les 20 dernières années, mais comme je vous le disais, ça date depuis bien plus longtemps, et des hôpitaux qui aujourd'hui s'avéreraient utiles. Alors on parle beaucoup des hôpitaux de campagne dans les territoires ruraux, mais sans aller très loin, à Paris par exemple, on a fermé une partie de l'Hôtel Dieu en plein centre de Paris, on a cédé une partie de l'espace au secteur privé, on est en train de fermer l'hôpital Jean Verdet en Seine-Saint-Denis, et aujourd'hui ces hôpitaux seraient particulièrement utiles. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Le manque de lits de réanimation, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est quelque chose qui est dénoncé depuis les soignants depuis des mois. Et l'hiver dernier, au moment du pic de bronchiolite, on s'est aperçu qu'il manquait de lits en réanimation et des patients, des jeunes enfants, ont dû être transférés en dehors de l'Île-de-France.
Cette suppression de lits a entraîné le dilemme moral auquel sont confrontés aujourd'hui les soignants qui sont obligés de trier les patients justement à cause du manque de lits, de respirateurs, Patrick Castel.
Écoutez, là, pour le moment, il faudra faire vraiment des analyses un peu plus fines. Il faut être assez prudent vis-à-vis de ce type d'anticipation. En revanche, ce qui sera... vraiment, ce à quoi il faudra être très attentif, c'est dans quelle mesure l'articulation entre la ville et l'hôpital s'est faite sous contrainte, c'est-à-dire que avant même l'accès à l'hôpital aurait été réduit peut-être par des capacités limitées. Je voudrais juste aussi rajouter le problème de lits, mais aussi le problème évidemment de soignants par lit d'hôpital, parce que c'est toutes les réformes qui ont été menées depuis des décennies, mais effectivement qui se sont accentuées depuis 2000-2010. Par exemple, en 2013, on a parlé du mécanisme Copermo, puisque le directeur général de l'ARS Grand Est a été limogé de ses fonctions pour avoir finalement maintenu la restructuration, annoncé le maintien de la restructuration du CHU de Nancy en plein moment de la crise. Ces mécanismes Copermo, par exemple, qui conditionnent l'aide à la modernisation des ensembles hospitaliers, et tout particulièrement des CHU, à des taux de refinancement de 8% et puis des ratios un peu de nombre de soignants par lit d'hôpital. Donc c'est tout un ensemble de réformes très économiques et managériales à base d'indicateurs standardisés qui conduisent à la situation dans laquelle on est.
Alors justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dès le début du XXe siècle, un certain rendement est exigé dans les hôpitaux. C'est ce que vous écrivez dans votre livre « La case du siècle », Fanny Vincent. Mais c'est surtout à partir des années 70 que l'objectif principal devient la réduction des dépenses de santé.
Oui, en effet, c'est le discours de l'action publique, la puissance publique change à partir des années 70-80 où on essaye de réduire les dépenses de santé. C'est à partir de là qu'on peut vraiment parler d'une mise en crise de l'hôpital, si vous voulez. Le coût de l'hôpital a toujours été un problème, une question, mais là, véritablement, l'hôpital, on considère qu'il est trop financé, ou en tout cas qu'il coûte trop cher et qu'il n'est pas assez performant. Donc, on va essayer de pénétrer les organisations hospitalières, à la fois pour savoir ce que produisent les hôpitaux, ce qui se passe à l'intérieur des services, et puis pour tenir cet objectif des dépenses. C'est comme ça qu'à partir des années 80, on réfléchit à un programme de médicalisation des systèmes d'information, le PMSI, selon son nom un petit peu barbare, qui essaye d'inventer un nouveau langage qui fait correspondre les activités médicales et le langage économique. Donc on invente un langage médico-économique pour essayer de gouverner la production et la productivité des hôpitaux, de créer une norme de productivité et donc des écarts à cette norme, identifiant des bons élèves et des mauvais élèves. Donc ça va avoir des effets assez nets sur le mode de financement de l'hôpital, et c'est comme ça qu'à partir des années 2000, on va arriver à ce mode de financement, à l'activité, à cette T2A, qui va considérer l'hôpital comme une entreprise et qui va le financer à l'activité qu'il produit.
C'est souvent la T2A, effectivement, que l'on désigne comme étant le dispositif qui aurait accentué cette course à la rentabilité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avant même la crise du coronavirus, le gouvernement annonçait vouloir que la T2A ne constitue pas plus de 50% des modes de financement. Donc il y avait déjà un recul par rapport à ce dispositif.
Oui, il y avait en tout cas une prise de conscience que le dispositif de la T2A cristallisait un certain nombre de critiques aujourd'hui à l'hôpital. Donc c'était assez fin de la part du gouvernement de se focaliser sur cet instrument de comptabilité de l'hôpital pour calmer les critiques en disant « l'hôpital n'est pas une entreprise, en effet, il faut revoir la tarification à l'activité pour introduire une part de financement à la qualité, de financement au parcours ». Donc là, il y a des réflexions qui sont en cours, mais ce que dit ces travaux et ces réflexions, c'est qu'en fait, on se focalise quand même toujours sur l'instrument de financement de l'hôpital et non pas sur le budget et les moyens que l'on consacre à l'hôpital. Donc c'est un débat qui est très technique et qui cache le fond du problème, à savoir un sous-financement chronique de l'hôpital qui a des effets très nets sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail et sur la satisfaction au travail des soignants derrière.
Et quel rôle a joué le New Public Management, la nouvelle gestion publique mise en place à l'hôpital à partir de la fin des années 2000 dans ces évolutions dont vous parlez et le fait que les logiques du privé sont de plus en plus présentes à l'hôpital, Fanny Vincent?
Eh bien, c'est le fait de vouloir gérer l'hôpital comme une entreprise véritablement, avec des pôles d'activité, des services qui sont fondus dans ces pôles d'activité, avec une gestion de plus en plus flexible de la main-d'œuvre qui contribue en fait à déqualifier le travail parce que le personnel est interchangeable. Alors on ne parle plus de personnel, on parle de ressources. On crée des pôles d'activité, comme je vous le disais, avec des pools, ou plutôt des équipes de suppléance qui sont mobilisables un petit peu partout dans l'hôpital en fonction des absences ou des trous dans les plannings. On crée des grandes équipes, par exemple, qui peuvent alterner des plages de matin, des plages de soir, des plages de nuit. On alterne le jour et la nuit. Voilà, on fait perdre la spécificité des métiers, on fait perdre les compétences aussi, l'expérience, les savoir-faire, et on rogne sur des temps de pause, sur des temps collectifs, des temps qui sont importants pour les soignants. Le but, c'est de produire, c'est de faire tourner l'hôpital un peu comme une entreprise, de dépersonnaliser les soignants et leurs compétences.
C'est l'idée que le privé est plus efficace, meilleur gestionnaire, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer hôpital public et hôpital privé, Patrick Castel?
C'est évidemment une question très peu politique et polémique. La mise en œuvre de la T2A a toujours été accompagnée par ces discussions-là. Il y a eu même des analyses. Les hôpitaux privés, à un moment, se sont plaints finalement des arbitrages qui étaient, selon eux, plutôt favorables à l'hôpital public. Je voudrais quand même rajouter que ces transformations que l'on vit, il faut les replacer aussi dans un contexte international. C'est-à-dire que la France n'est pas le seul pays à avoir mise en œuvre telle réforme. La T2A est largement inspirée de réformes qui viennent des États-Unis, que les Diagnosis Related Groups, qui ont été expérimentées dans les années 70 en réaction à ce qu'on appelait la révolte des payeurs, c'est-à-dire que les coûts qui ont suivi la mise en œuvre du Medicare et Medicaid dans les années 60, les coûts, donc le financement public a explosé, ce qui a entraîné ce qu'on appelait donc la révolte des payeurs. Et l'une des réponses a été de créer ces grandes chaînes intégrées qui sont les Health Maintenance Organizations, les HMO, et l'un des outils était donc les DRG, qui sont arrivés en France par des circuits de circulation des instruments de management qu'on connaît bien et qui ont finalement donné lieu à la T2A, effectivement, avec des adaptations particulières.
Certains chercheurs dénoncent une privatisation rampante de l'hôpital public en France. Pourtant, avec 11% du PIB dépensé dans la santé chaque année, c'est difficile de parler d'un recul de l'État, Patrick Castel.
Non, au contraire, oui, effectivement, c'est toute l'ambivalence qui a été montrée par les chercheurs qui sont intéressés aussi au New Public Management, c'est-à-dire que c'est une adaptation de certaines techniques venant du privé, du secteur public, mais qui n'aboutit pas à un désengagement de l'État, mais à une transformation des modalités d'action de l'État. Non seulement parce que mettre en œuvre la T2A nécessite beaucoup d'investissements pour la faire tourner. C'est très, très compliqué. Ensuite, l'État aussi a renforcé son influence avec la création notamment des agences régionales de santé dont on parlera sans doute plus tard parce qu'ils sont au cœur là récemment de la tourmente. Les médias commencent à en parler. Le mouvement paradoxal, c'est que effectivement, pas mal de recherches diagnostique plutôt un renforcement de l'État, mais sous de nouvelles formes, de nouvelles modalités d'intervention.
Vous l'avez dit, Patrick Castel, ce n'est pas seulement une crise de l'hôpital public, mais peut-être une crise de notre système de santé dans son ensemble. Alors, quelles leçons peut-on tirer de l'épidémie actuelle ? On en parle dans un instant.
A bottle of lean, a gun in your jeans, and a little faith in me. A plane in the sky, the only starlight on this never-ending street. The cameras in cops, we could have been stars on our mother's new screens. On our mother's new screens. All of these traps and all of these street signs, none of them will be yours or mine, but I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive. These colors and flags, the sweat on your back, you're doing what you can. Pride in your hand, a price on your head, you can never let them win. Just put down that bottle, tell me your sorrows, I care about you, fam. I care about you, fam, oh, oh. All of these traps, and all of these street sounds, none of them will be yours or mine, but I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive. And if they take it all, freedom in our hearts and that glow in your face, I'll remind you who you were before it changed. All of these tribes and all of these street signs, none of them will be yours or mine, but I'll be your empire. Just stay alive, stay alive.
Stay Stay Alive de Mustapha sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie des sociologues Fanny Vincent et Patrick Castel pour parler des défaillances de notre système de santé révélées aujourd'hui par la crise du coronavirus. Alors, de nombreuses personnalités du monde médical ont pointé les problèmes de coordination entre les différents établissements. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Lamine Garbi. Il est président de la Fondation des cliniques et hôpitaux privés. C'était le 23 mars dernier.
C'est un problème peut-être de discussion, de collaboration entre le public, le privé. On voit sur les territoires, et le Grand Est a été le cas révélateur pour l'ensemble de la profession, nous avions des lits de réanimation, 70 lits de réanimation sur Strasbourg, Metz, Nancy, et ça n'a pas été mobilisé. Je demande simplement que le public et le privé communiquent. On fait tous le même métier. Nos médecins viennent tous de l'hôpital public. C'est des médecins qui sont formés. Voilà, les diplômes de nos infirmières sont diplômes d'État. Donc voilà, je suis un peu en colère de voir qu'il y a encore des a priori sur le privé.
Comment expliquer cette difficulté à coopérer entre établissements publics et privés, Patrick Castel?
Écoutez, le monde de la santé n'échappe pas aux autres mondes de société. Ils sont marqués par des conflits, des luttes de pouvoir, des luttes d'influence, des valeurs différentes. Et le monde de la santé est traversé par ce type de grande séparation entre public et privé, entre ville et l'hôpital, entre spécialités. Ceci dit, là aussi, les collaborations ou l'absence de collaboration entre clinique et hôpital, il faudra les analyser finement après cette crise. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le manque, en tout cas, ce n'était pas très visible, et visiblement, des professionnels de santé s'en sont émus aussi, le manque d'intégration entre la ville et l'hôpital, et puis entre le médico-social et l'hôpital. On reparlera sans doute aussi de la question des EHPAD, qui est quand même quelque chose de très effrayant, un peu la situation qu'ont vécu les EHPAD.
Cette question de la ville et de l'hôpital est effectivement très importante. On peut se demander si la prise en charge des patients atteints du Covid-19 devrait être mieux répartie entre la médecine de ville et l'hôpital. On a vu en Lombardie, par exemple, que les hôpitaux saturés étaient devenus des foyers de transmission, ce qui n'est pas arrivé en Vénétie, où on a moins hospitalisé. C'est en tout cas ce qu'expliquait le professeur italien Giorgio Palou dans une interview pour Libération.
Tout à fait. Là aussi, évidemment, on ne peut pas dresser de plan sur la comète à chaud, mais effectivement, il y a pas mal de signaux qui pointent dans cette direction-là. J'ai eu aussi des remontées de terrain où les hôpitaux qui avaient une tradition de plus travailler avec la médecine de ville dans un même territoire, deux hôpitaux dont l'un avait l'habitude de travailler avec la médecine de ville et qui, au début mars, a réussi à maintenir au maximum, avec une forte coordination entre l'infectiologue et les médecins généralistes, les patients à domicile, a évité la première vague que n'a pas évité l'hôpital d'à côté qui a tout de suite accueilli les patients. Et cette semaine d'organisation a été cruciale pour redéployer les lits. Donc ça ne résout pas effectivement les problèmes structurels qu'on a évoqués au début de l'émission. Hein. Mais en revanche, on voit que selon le degré d'intégration entre la ville et l'hôpital, les situations ont pu être gérées plus ou moins durement. Et je pense que le rôle de la médecine de ville dans le déconfinement va être très important. Bon, la PHP l'a bien perçu, hein, et dans une note interne préparant le déconfinement, Martin Hirsch et des experts de la cellule de crise ont tout de suite pointé en disant qu'il faut que le déconfinement s'accompagne d'une plus grande collaboration avec la médecine de ville. Sinon, on va retomber dans la même difficulté que lors de la première phase, la première vague. On peut voir que la ville, finalement, a été la première digue, si vous voulez, pour filer la métaphore, avant l'hôpital.
Cette meilleure coopération entre médecine de ville et hôpitaux, c'est une demande de longue date d'un certain nombre de professionnels de santé, Fanny Vincent?
Oui, en effet, je pense que aujourd'hui, on souffre, comme l'a dit Patrick Castel, d'un manque de coordination, d'articulation entre ces deux secteurs. Et d'ailleurs, la crise de l'hôpital, entre guillemets, qu'on vit depuis des années, elle est en partie due aussi à une crise du système de santé de manière plus large et au manque de régulation et au manque de moyens accordés à la médecine de ville. Quand je dis manque de régulation, c'est notamment le caractère inégalitaire du système de santé de premier recours, avec une liberté d'installation des médecins qu'on a l'air de découvrir depuis quelques années, mais qui en réalité est très ancienne et existe depuis les origines libérales de la médecine. avec par exemple un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est souvent plus important du côté de la médecine de ville que du côté de l'hôpital, et le sentiment à l'hôpital qu'on demande toujours plus d'économies aux hospitaliers.
Et puis vous l'avez évoqué, Patrick Castel, il y a peut-être cette nécessité de mieux coordonner aussi les EHPAD et les hôpitaux, sachant qu'il y a 700 000 résidents aujourd'hui dans les différents types d'établissements privés ou publics qui accueillent des personnes âgées, et il y a souvent des ruptures dans le processus de soins qui peuvent être extrêmement graves pour les personnes âgées concernées.
Oui, alors juste un petit point sur la ville-hôpital. De façon symétrique, les médecins de ville, dans la hiérarchie symbolique, et notamment les médecins généralistes, souffrent aussi beaucoup d'être moins considérés dans la hiérarchie symbolique que les médecins hospitaliers, par exemple. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très ancré, ces difficultés de collaboration, ce qui n'empêche pas, ici ou là, et on reviendra sans doute à la fin sur ce qu'il faut faire maintenant, que des collaborations commencent à se mettre en place. D'autres qui préexistaient vont être accrues et augmentées avec la crise. Et du coup, il faudra vraiment tirer parti pour arriver à mieux intégrer ces deux points. Sur les EHPAD, la situation est dramatique parce que bon, ils souffrent effectivement, et ça, heureusement, on en parle depuis quelques années, malheureusement, rien ne se passe, d'un manque de moyens, d'un problème d'intégration très fort, parce que dans les EHPAD, si le grand public ne le sait peut-être pas, il y a des médecins coordonnateurs qui n'ont pas la capacité de prescrire, puisque la prescription vient des médecins traitants. Et donc, ils doivent à la fois coordonner les soins sans avoir vraiment les moyens de les coordonner. De surcroît, tous les médecins coordonnateurs ne sont pas à plein temps, ils sont souvent à temps partiel dans les EHPAD. Certaines EHPAD bénéficient de pharmacie, d'autres non. Donc, tout ça, évidemment, crée un problème de continuité des soins, à tel point que 40% des résidents vont être hospitalisés par an, avec 19 jours d'hospitalisation en moyenne. Et on estime que 19 à 67% de ces hospitalisations pourraient être évitées. En cause, notamment, les prescriptions, ce qu'on appelle les prescriptions millefeuilles, c'est-à-dire qu'en moyenne, une ordonnance d'un résident en EHPAD contient jusqu'à 8 lignes. Donc, vous voyez la difficulté et les risques iatrogéniques qui se greffent là-dessus. Donc, vous avez ce problème d'intégration interne des EHPAD, et après, vous avez la place des EHPAD dans le système de santé. Quelle est la place de ces établissements? On a vu dans la presse des témoignages assez bouleversants de médecins qui témoignaient de résidents qui n'avaient pas accès à l'hôpital et qui mouraient, pas dans l'anonymat, mais dans la solitude, sans accès aux hôpitaux. Donc vous voyez, donc, il y a vraiment un problème de prise en compte de ce secteur-là, médico-social, dans le système de santé, qui est criant, qui explose un peu à l'occasion de cette crise, mais quelque chose que tous les professionnels savaient depuis des années.
Un dernier mot sur les difficultés de la coopération entre les différents acteurs du système de soins. Est-ce que cela révèle aussi, ce sont les rapports de force qui existent entre les différentes spécialités, Patrick Castel?
Oui, tout à fait. Alors les infectiologues dans de nombreux hôpitaux n'étaient pas les plus dotés. L'hôpital est resté aussi traditionnellement très organisé autour des chirurgies, par exemple, ou de certaines spécialités comme la cancérologie. Donc il y a des luttes entre spécialités, mais au-delà de ça, avec un collègue, Henri Bergeron, on a développé essayer de comprendre ces coopérations qui ne se réduisent pas à des luttes entre spécialités, qui ne se réduisent pas à des luttes publiques-privées, parce que dans les faits, on observe des coopérations publiques-privées, on observe des coopérations entre spécialités. L'analyse qu'on faisait à partir d'une comparaison entre cancérologie, toxicomanie et alcoolologie, c'est que les professionnels entrent en conflit quand les patients qui leur sont adressés par un collègue ne correspondent pas finalement à l'idée qu'ils se font du soin et aux ressources dont ils disposent, donc un peu des patients conformes à leur mode d'organisation et aux ressources dont ils disposent, et aussi les conflits interviennent quand plusieurs professionnels ou même deux professionnels cherchent à maîtriser le parcours dans son ensemble, ce qu'on appelait des captants. Et donc en fait, quand la coopération est, on va dire, fluide, c'est qu'un professionnel accepte de suivre le patient au long cours et fasse intervenir d'autres spécialités ou d'autres généralistes qui interviennent plus ponctuellement. Quand vous avez plusieurs captants dans la même chaîne, vous arrivez à des conflits, ou quand vous avez au contraire que des non-captants, comme ça arrive par exemple pour certaines maladies rares, pour certaines personnes âgées, où finalement personne n'en veut et se refile pour passez-moi l'expression, mais c'est un peu les termes qu'on peut observer parfois dans les entretiens, ça refile les patients, là aussi des conflits arrivent, parce que personne finalement n'assure le suivi au long cours, et parfois du coup c'est des associations de patients qui vont essayer d'organiser les parcours.
Je voudrais qu'on parle d'un autre dysfonctionnement révélé par l'épidémie de Covid-19, qui est le manque de prévention, et notamment de prévention de l'obésité, qui est en l'occurrence un facteur aggravant dans l'épidémie actuelle. La prévention, c'est aujourd'hui l'un des points faibles de notre système de santé, Patrick Castel.
Tout à fait. C'est-à-dire que coronavirus révèle un peu un ensemble de faiblesses, on va dire, que l'on savait depuis plusieurs décennies parfois. On a parlé de l'hôpital, on a parlé de l'intégration ville-hôpital. La santé publique, c'est aussi un des points faibles de notre système. On peut dire aussi que le confinement est un peu aussi le signe de cette faiblesse, puisque finalement, à un moment ou un autre, le gouvernement a fait le pari que les gestes barrières ne seraient pas suffisants. On sait que chaque année, il y a parfois 10 000 morts, dont sans doute certains seraient évitables si on avait les mêmes réflexes que certains de nos voisins, se laver les mains, porter un masque dès qu'on a de la fièvre, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très ancien, cette faiblesse de la santé publique. Et j'englobe dans la santé publique aussi une conception plus large, c'est-à-dire la prise en compte aussi des inégalités de santé.
Fanny Vincent, sur cette question de la prévention, est-ce que vous diriez vous aussi qu'on a un système de santé trop curatif, pas assez préventif ?
Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que la question que vous posiez, il me semble, dans le titre de l'émission, c'était « crise de l'hôpital ou crise de la santé publique ». C'est intéressant parce qu'en fait, le projet de Robert Debré à l'origine, le projet donc qui crée la médecine curative, la biomédecine, enfin la médecine de l'excellence structurée autour de l'hôpital, était aussi un projet qui devait faire de l'hôpital un centre de santé. Non pas seulement le centre de la santé, mais un centre de santé. Et on peut se rendre compte aujourd'hui, de manière assez criante, même si on s'en est déjà rendu compte par d'autres crises par le passé, de l'échec de ce projet. Ça a été amplifié bien évidemment avec la T2A qui valorise essentiellement des opérations médicales standardisées, des opérations de pointe et pas du tout la question de la prévention, les problèmes de santé publique qui eux ne rapportent rien. Et par ailleurs les professionnels n'ont pas le temps de consacrer du temps à la santé publique et quand ils prennent ce temps, eh bien souvent ils sont rappelés à l'ordre. Je me rappelle par exemple d'une lettre des pédiatres du CHU de Grenoble qui avait été rendue publique dans Libération, il me semble, qui dénonçait le discours comptable de la direction de l'hôpital et qui accusait les pédiatres de prendre trop de temps dans les consultations pour adapter les traitements des patients, pour les suivre à distance, qui faisaient des consultations de 45 minutes et qui ne rapportaient pas assez parce qu'ils consacraient trop de temps à l'éducation thérapeutique du patient. Donc clairement, aujourd'hui, l'hôpital n'est pas un centre de santé publique et en tout cas c'est problématique parce que c'était pas valorisé. L'autre aspect qui est important quand on parle d'hôpital et de santé publique, c'est que cette fameuse crise structurelle de l'hôpital dont on parle, en fait, elle est liée à la crise de la santé publique. C'est une crise de santé publique parce que si l'hôpital est débordé aujourd'hui, si l'hôpital gère beaucoup de patients et se retrouve à gérer des besoins de santé en augmentation constante, c'est certes parce qu'il y a eu des réformes qui ont sous-dimensionné l'hôpital aujourd'hui pour prendre en charge ces besoins-là, mais c'est aussi parce que les besoins de santé sont conditionnés par les conditions dans lesquelles on vit. Donc en fait, s'interroger sur les causes de la crise de l'hôpital, c'est aussi s'interroger sur ce qui rend malade aujourd'hui. On parle beaucoup du vieillissement de la population, mais devenir vieux en soi, c'est pas une maladie. Il faut s'interroger sur les déterminants collectifs de la santé, les conditions dans lesquelles on vit, on mange, on travaille, on se déplace, on respire, et le manque de prévention.
Vous écoutez France Culture ? Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Cette épidémie de coronavirus que nous vivons aujourd'hui pose en tout cas la question de la gestion de crise. Et si la crise des missiles de Cuba nous éclairait sur la réaction à adopter aujourd'hui, le 22 octobre 1962, le président Kennedy s'adressait aux citoyens américains. On l'écoute.
Acting therefore in the defense of our own security. And of the entire Western Hemisphere.
Afin d'assurer notre propre sécurité ainsi que celle de tout le bloc de l'Ouest et selon l'autorité que la Constitution m'a confiée, soutenue par la résolution du Congrès, j'ai ordonné que soient immédiatement prises les mesures suivantes. Tout équipement militaire en direction de Cuba sera dès à présent mis sous quarantaine stricte. Tous les bateaux en direction de Cuba, en provenance de n'importe quelle nation ou port, seront renvoyés d'où ils viennent, s'y trouver avec des cargaisons d'armes à bord.
Voilà ce que disait le président Kennedy lors de cette crise des missiles de Cuba en octobre 1962. Que nous apprend ce parallèle, Patrick Castel, avec cette crise des missiles de Cuba ?
Oui, bien sûr, c'est un parallèle que j'ai fait sur le site de mon laboratoire où on écrit un certain nombre de textes un peu de point de vue de chercheur sur cette crise. Et l'intérêt du parallèle, au-delà évidemment du côté qui pourrait être impromptu, on pourrait dire, ou un peu étrange, c'est que la crise des missiles de Cuba a donné lieu à des évolutions très sensibles de la compréhension de la décision par les chercheurs en sciences sociales. Ce qu'on a pu, avec cette décision de Kennedy, il y a eu des analyses d'archives, et on a essayé de sortir du carcan du modèle rationnel. C'est-à-dire que toute décision, jusque-là, était analysée en termes de rationalité. Est-ce que c'est rationnel ou pas rationnel ? Et la rationalité étant définie comme, finalement, la comparaison des différentes options, de toutes les options disponibles, et le choix, celle qui a le meilleur rapport coût-bénéfice. La crise des missiles de Cuba a montré que ce modèle, certes, il y avait ces éléments de réflexion, heureusement, les décideurs avaient ce type de raisonnement de comparer, sauf qu'ils ne le faisaient pas sous cette aune-là, avec cette comparaison synoptique de toutes les alternatives. Il fallait parler plutôt de rationalité limitée, parce que les acteurs doivent prendre des décisions en n'étant pas sûrs des conséquences de leurs décisions. Et là, on peut voir le parallèle avec le cas du confinement, donc on n'a aucun scénario pour savoir quelles sont les conséquences sociales, économiques, sanitaires du confinement. Donc c'est quelque chose d'assez inédit. Les anticipations évoluent, les valeurs évoluent, et on voit que la valeur économique et la valeur sanitaire, au cours de la crise, évoluent. On voit que les options favorisent plutôt l'un ou plutôt l'autre. Pendant un moment, on a reculé le moment du confinement parce qu'il fallait pas ralentir l'activité économique. Puis après, le confinement, évidemment, met un coup d'arrêt. Deuxième point, les décisions. Il faut sortir d'une idée de décideur, que ce soit Emmanuel Macron, John F. Kennedy, Boris Johnson ou Donald Trump, comme des décideurs finalement isolés. Les décisions qu'ils prennent sont dépendantes des organisations.
Il faut prendre en compte les organisations, dites-vous.
Tout à fait. Et le dernier point, c'est le modèle de la crise des missiles de Cuba montre aussi les rapports de force à l'intérieur du gouvernement. Et donc là aussi, évidemment, il est trop tôt pour poser des conclusions définitives, mais on voit qu'effectivement, entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, pendant un moment, c'était le ministère de la Santé qui, au début, a tenu les rênes. Est-ce que maintenant, le ministère de l'Intérieur, voire le ministère de la Défense, dans la gestion de la crise, quels sont les rapports de force ? Le ministère de l'Éducation nationale, quelle est sa place aussi dans la gestion de la crise ? Donc, une décision ne peut pas s'analyser seulement en termes de rationnel ou irrationnel. Il faut comprendre tous les déterminants politiques d'une décision.
Et ce que vous expliquez également, Patrick Castel, c'est que la gestion de cette crise du coronavirus ne s'est pas faite avec des outils existants, alors même qu'il en existe et qui sont prévus pour répondre à ce type d'épidémie. Alors comment l'expliquer ?
C'est vraiment une énigme. Effectivement, le plan pandémie-grippe n'a pas été mis en œuvre. Il y a eu du retard à l'activation du centre de la cellule le CIC, la cellule de crise. On a créé de nouvelles organisations, le Conseil scientifique, le CARE, qui était finalement au début un peu hors sol par rapport aux institutions sanitaires existantes. Donc, comment interpréter ça ? C'est assez difficile à dire. Est-ce que c'était une manière pour le gouvernement de ne pas se lier les mains, justement, avec les organisations existantes ? Parce que Kennedy, je ne pense pas que c'était lié à la connaissance de la crise des missiles de Cuba, mais Kennedy a compris le poids des organisations avec lesquelles il avait affaire au cours de cette crise. Est-ce que les hypothèses, pour le moment, ça fait partie des énigmes à résoudre, comme la décision du confinement qui n'était pas prévue et qui ressort comme une solution, finalement, qui s'impose à tous les pays avec des degrés, certes, divers de sévérité. Donc ça, c'est, à mon avis, les chercheurs ont de longues années devant eux pour essayer de comprendre toutes ces décisions-là.
Ce que l'on constate, en tout cas, c'est que les outils proposés par l'État pour répondre à l'urgence ont été renforcés par des start-up. Plusieurs agences régionales de santé ont ainsi eu recours à MedGo, qui est une plateforme qui proposait aux établissements de santé d'organiser les remplacements de personnel. Quel est votre regard sur ces partenariats entre public et privé ? Fanny Vincent d'abord et Patrick Castel ensuite.
Oui, bah, je pense que cette crise, elle révèle ce qui existe déjà et ce qui se développe de plus en plus à l'hôpital, c'est-à-dire la place que prennent aujourd'hui les acteurs privés et les acteurs marchands, et en premier lieu les start-up, dans le sauvetage de l'hôpital public et dans la crise de l'hôpital. Ils deviennent en fait des acteurs incontournables du sauvetage de l'hôpital public, et ils se posent, et vont se poser encore plus avec cette crise, comme des acteurs sauveteurs, des acteurs remparts face à la crise. Classiquement, outre la crise du Covid-19, c'est par exemple l'implantation de tablettes tactiles dans les salles d'attente de consultation des hôpitaux pour faire de l'éducation thérapeutique des patients, ou des applications en tout genre comme MedGo ou comme Moog pour gérer les remplacements et les heures supplémentaires des soignants, ou alors des applications de géolocalisation du matériel dans l'hôpital. Enfin voilà, tout un tas d'acteurs qui profitent en fait de cette crise et qui accompagnent les effets des réformes, c'est-à-dire le manque de moyens accordés à l'hôpital. Ils proposent des solutions pour gérer ce manque de moyens.
Mais est-ce qu'il faut nécessairement déplorer, selon vous, Patrick Castel, le fait que les entreprises privées soient de plus en plus présentes au sein de l'hôpital public, ou au moins des agences régionales de santé qui les supervisent ?
Je ne répondrai pas vraiment à cette question. J'y répondrai de façon indirecte. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est pas tellement déplorer la participation du privé dans l'hôpital public. Ce qui me frappe, c'est la croyance dans la technologie qui va résoudre les problèmes de coopération. Et comme Fanny Vincent disait qu'effectivement, on n'adresse pas la question des moyens, je pense aussi qu'on n'adresse pas de la bonne façon la question de la coopération. C'est-à-dire que la coopération est quelque chose, finalement, qui est assez, qui serait magique, et que, finalement, des applications permettraient à des acteurs de, tout d'un coup, d'échanger des informations, de se coordonner, de résoudre des problèmes de ressources humaines, etc. Et c'est ça qui se cache derrière. Donc, que certains outils puissent aider, je pense que ça, on peut s'entendre là-dessus. En revanche, si l'alpha et l'oméga de l'articulation et de la coordination devaient être réglés par ces outils techniques, là, je n'y crois pas, parce que justement, il faut que, enfin, la coopération ne se décrète pas et n'est pas juste un seul problème technique. Il y a vraiment des apprentissages collectifs à développer, à essayer ce que les contraintes, les médecins de ville prennent en compte les contraintes de l'hôpital quand ils prennent en charge ou quand ils confient des patients, et vice-versa, que l'hôpital, quand ils ont cherché, par exemple, quand ils ont pris en charge des patients, prennent en compte les contraintes de la ville pour que cette collaboration soit le plus fluide possible. Donc, vous voyez, c'est vraiment un échange, et il faut travailler sur ces échanges, et ce n'est pas des applications qui vont résoudre ces problèmes-là.
Vous êtes d'accord avec cela, Fanny Vincent? On compte trop sur les outils numériques pour résoudre les problèmes de coopération entre les différents acteurs du système de santé?
Oui, absolument. Il y a une technophilie, une croyance idéologique dans le fait que la technologie va tout résoudre, qui est de plus en plus forte à l'hôpital et qui se pose vraiment comme la solution miracle à tous les problèmes de l'hôpital, à savoir les moyens et la question de la coopération. Absolument.
Alors, il y a une question qui se pose maintenant, c'est celle des leçons de la crise que nous vivons. Est-ce que nous serons capables collectivement de tirer des leçons et éventuellement de repenser ce système de santé qui est le nôtre? Écoutez ce qu'en disait Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 mars.
La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train de prendre, beaucoup des changements auxquels nous sommes en train de procéder, nous les garderons, parce que nous apprenons aussi de cette crise. Parce que nos soignants sont formidables d'innovation et de mobilisation, et ce que nous sommes en train de faire, nous en tirerons toutes les leçons. Et sortiront avec un système de santé encore plus fort.
Nous en sortirons avec un système de santé encore plus fort, nous dit Emmanuel Macron. Quelles sont les leçons que le gouvernement pourrait tirer de la crise sanitaire que nous vivons, selon vous, Fanny Vincent ?
Alors peut-être pour revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, il me semble que bon, on peut pas encore tirer les leçons de la crise, mais on peut quand même commencer à voir plus clair sur un certain nombre de plans du gouvernement, ou en tout cas la manière dont il gère cette crise. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron est faux, quoi qu'il en coûte. Il me semble que c'est pas du tout vérifié pour le moment. Une des premières choses à faire, ce serait de répondre aux revendications du collectif Interurgence et Interhôpitaux, qui porte depuis plus d'un an, à savoir revaloriser les salaires, embaucher massivement des soignants et puis rouvrir des lits. Bon, sur la question des salaires, il y a eu un petit aperçu pour l'instant. Encore une fois, ce qui est proposé par le gouvernement, ce sont des primes qui sont inégalitaires, qui sont discriminatoires, qui posent la question des critères qui vont être retenus et qui ne prennent pas en compte l'effort collectif qui a été fait par tous les soignants dans cette épidémie. Donc, de ce point de vue-là, déjà, on peut douter de la sincérité des propos d'Emmanuel Macron. Et puis par ailleurs, est-ce que le système de santé en sortira renforcé? On peut en douter aussi. On a eu un aperçu, même si le gouvernement est revenu dessus et a démenti, mais à travers la note de la Caisse des dépôts et consignations qu'a rendue publique Mediapart, qui, même si elle ne sera pas forcément suivie, en tout cas donne à voir la vision qu'a le gouvernement, ou qu'ont plutôt les hauts fonctionnaires de l'hôpital et de la santé. Et c'est une vision qui colle parfaitement avec la vision qui est défendue par Emmanuel Macron, à savoir un refus de considérer...
Alors il faut préciser, parce que c'est important, effectivement, cette note de la Caisse des dépôts a été rédigée après la proposition d'Emmanuel Macron de lancer un plan massif d'investissement pour l'hôpital.
Oui, absolument. Et donc c'était un plan, une note pour configurer ce que pourrait être ce plan massif d'investissement pour l'hôpital. Le problème, c'est que dans cette proposition de la Caisse des dépôts et consignations, il y a un refus assez net de considérer le problème du sous-financement chronique de l'hôpital. Restructurer la dette, développer des lignes de prêt, créer un fonds de partage, ça ne réglera pas le problème, ce sont des choses qui sont proposées. Et puis d'autre part, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la supériorité du marché et des acteurs marchands qui est affirmée dans cette note. En fait, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut sacraliser l'État-providence, sacraliser la santé, en faire un bien qui ne soit plus soumis aux logiques de marché, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce sont les acteurs marchands qui sont sacralisés pour assurer la pérennité du système de santé. C'est à eux qu'est confiée cette pérennité. Des propositions de la note sont celles de remettre au goût du jour les partenariats publics-privés qui avaient été supprimés pour le secteur de la santé face à des erreurs monumentales sur certains hôpitaux, et puis un recours foisonnant, encore une fois, à des structures privées pour organiser de manière interne l'hôpital, avec le recours au numérique, à la télémédecine, etc., qui ne réglera pas par ailleurs le problème du personnel nécessaire pour assurer ces consultations. Et puis des objectifs de rentabilité, en fait, qui sont in fine ceux de ces acteurs marchands et qui vont irriguer les mesures qu'ils vont déployer pour sauver l'hôpital, ou en tout cas pour assurer sa pérennité.
Patrick Castel, vous partagez l'avis de Fanny Vincent. Vous ne croyez pas à un changement de logiciel chez Emmanuel Macron ?
C'est difficile à dire parce qu'on n'est pas dans sa tête. C'est vrai que le monde d'après qui nous est promis... Premières décisions qui ont été contestées, par exemple sur la prise en compte au niveau du débat sur le budgétaire, au niveau du Parlement, avec tous ces atermoiements sur finalement est-ce qu'il faut continuer à aider les entreprises, même quand elles ne font pas preuve de prise en compte des objectifs environnementaux, par exemple, ou leur statut fiscal, ne laisse pas augurer d'un changement très profond des logiques. Ceci étant dit, il faut vraiment, à mon avis, cette crise doit vraiment faire évoluer à la fois justement cette organisation de ce retour d'expérience, c'est-à-dire que ce n'est pas Emmanuel Macron avec ses conseillers qui va pouvoir tirer des retours d'expérience à son niveau. Il va falloir organiser cela en s'appuyant...
Ce que vous dites, c'est qu'il faut écouter les retours de terrain.
Il faut écouter les retours de terrain, il faut s'appuyer sur les chercheurs en sciences sociales, quelles qu'ils soient, de différentes disciplines, parce que marier et faire varier plutôt les points de vue seront très utiles, avec de vrais retours d'expérience. C'est-à-dire que actuellement, chaque crise, finalement, débouche sur plutôt des mises en accusation individuelles, se règle éventuellement dans des rapports ou dans des prétoires. Évidemment, cette crise, je pense, augure aussi de règlement de compte à ce niveau-là, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'appuyer sur tout ce qu'ont vécu les acteurs de terrain, et pour revenir à cette question de la santé publique, Dans les territoires, on voit que la question des masques, c'est pas seulement une question de l'ARS ou du préfet, c'est une question des collectivités locales, des lycées qui avaient aussi des stocks de masques liés aux préparations des plans de pandémie qu'ils ont mis à disposition, c'est le tissu économique local, c'est les associations. Donc il y a tout ce tissu local et comment ils ont géré la crise, il faut en tirer absolument des leçons pour essayer d'améliorer cette coopération.
Il y a un autre aspect peut-être dont il faudrait tirer des leçons. C'est ce qu'a révélé une enquête réalisée par Radio France. Elle a révélé que sur les 10 000 appareils commandés par les autorités sanitaires, plus de 8 000 ne correspondent pas aux besoins de l'hôpital. Il s'agit en effet de respirateurs qu'on utilise dans les ambulances, mais pas dans les salles de réanimation. Ça rejoint ce que vous dites, Patrick Castel, sur les difficultés de la communication. On a du mal à comprendre comment un tel raté a pu survenir.
Oui, j'ai lu effectivement ce résultat de votre cellule d'investigation. Ça paraît assez édifiant. Je pense que la question des masques, la question de l'organisation, peut-être l'organisation des tests dans le déconfinement, mériteront aussi d'étudier toutes ces chaînes de communication. On a entendu parler d'un peu des... peut-être exagéré, de la guerre des masques, mais que les différentes administrations étaient plutôt en concurrence, plutôt que coordonnées, dans la gestion de la pénurie des masques. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose quand même dont il faudra tenir compte, sans nécessairement tomber dans une mise en accusation, mais essayer de comprendre ce qui nous a amené à cette affaire dans l'affaire, hein, la question de la crise des masques en France.
Alors, on a bien compris que le système de santé de demain devrait s'appuyer davantage sur la coopération. Pour vous, Fanny Vincent, il faudrait aussi donc davantage de moyens, mais peut-être aussi une meilleure répartition de ces moyens.
Oui, il faut davantage de moyens, ça c'est certain. Il faut écouter les professionnels de santé sur le terrain, en fait. Je pense que c'est ça, vraiment, la leçon à tirer de la crise. Jusqu'à présent, on disait qu'ils étaient mal organisés, c'est pour ça que l'hôpital allait mal. Aujourd'hui, ce que me disait un urgentiste, aujourd'hui, plus personne ne vient nous dire qu'on est mal organisé. Aujourd'hui, on nous fait confiance pour gérer cette crise. Et donc, sur la question des moyens, comme sur la question de ce qu'il faut pour sauver l'hôpital, je pense qu'il faut aussi écouter les professionnels de santé sur le terrain et les besoins qu'ils expriment.
Et comment sortira-t-on de ce que vous avez appelé en début d'émission l'hospitalocentrisme ?
Alors, il faut repenser le système de santé dans sa globalité. Et il faut, comme on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, refinancer l'amont et l'aval de l'hôpital, se doter d'un service public de soins de proximité. Aujourd'hui, il n'existe pas. C'est un service de soins de proximité, mais qui est largement basé sur le fonctionnement libéral de la médecine, c'est-à-dire service public de soins de proximité, financé par exemple des centres de santé qui fonctionnent avec le tiers payant, où les médecins et les professionnels plus largement sont salariés. Un service public de proximité égalitaire, donc, qui tente de remédier au non-recours aux soins de la population pour des raisons économiques. Il y a 25% de la population qui dit avoir renoncé aux soins pour des raisons économiques dans l'année, selon une enquête de l'IRDES. Donc tout ça, ça implique de financer et de repenser l'organisation de l'amont de l'hôpital. Et puis l'aval, on en a parlé aussi, le secteur des EHPAD, le secteur des soins de suite, et repenser plus largement la place qu'occupent les mutuelles et le pourcentage de reste à charge pour la population.
Et cela en particulier dans un contexte de vieillissement de la population. Selon une étude de l'Observatoire Cap Retraite, un tiers des prises en charge à l'hôpital concernera des personnes âgées dans 15 ans, contre un cinquième aujourd'hui. Un dernier mot, Patrick Castel, sur les leçons que l'on pourra tirer de cette crise pour le système de santé.
Je rejoins tout à fait les points soulevés par Fanny Vincent. Je pense que avant la crise, il y avait une réforme des études médicales qui avait été initiée. Je pense que cette crise va permettre aussi de repenser cet enseignement, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a manqué aux professionnels de santé, qu'est-ce qui les aurait aidés aussi davantage, outre effectivement toutes ces questions de moyens qu'il faut les écouter sur le terrain, leur capacité d'innovation et d'expérimentation qui apparemment a été bien réelle. Ils ont réussi à dans des conditions très difficiles à passer la première vague. Donc ça, c'est évident. Mais aussi, quand on les entend, ils disent ben, finalement aussi, on a expérimenté de nouvelles façons de travailler ensemble. J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux, des anesthésistes réanimateurs. Ils disent ben, tiens, finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler de manière un peu plus horizontale. Donc eux non plus n'étaient pas tout à fait satisfaits de la façon aussi dont ils travaillaient avant. Et là, indépendamment de tout le New Public Management. Donc je pense que les études médicales doivent intégrer de façon évidente à la fois les enjeux de santé publique qu'a soulevé Fanny Vincent, les questions d'inégalité, mais aussi les questions d'organisation, pas dans un sens technocratique, au contraire, dans un sens de, finalement, qu'est-ce que c'est que prendre en charge avec d'autres professionnels. Et ça, finalement, les professionnels de santé le disent aussi, dès qu'ils s'installent, ils découvrent, finalement, toute la difficulté à collaborer ensemble. Donc, j'insiste beaucoup sur ça, parce que je pense que, outre les questions de moyens, je pense que la question de l'organisation n'est pas prise, vous l'avez compris, dans un sens de management, mais dans un sens, finalement, où les sciences sociales ont leur mot à dire pour essayer d'aider et d'accompagner une meilleure prise en charge plus coordonnée.
On se quitte avec Watsahachi et leur dernier titre, Can Do Much. Un grand merci Fanny Vincent et Patrick Castel de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Fanny Vincent, La Case du siècle, publié avec Pierre-André Juvin et Frédéric Pierru aux éditions Raison d'agir. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho et au CDM de Radio France. Demain, course au vaccin, l'innovation à la rescousse. On en parle avec les économistes Nathalie Coutinet et Gérard de Pouvourville. Restez à l'écoute sur France Culture. Dans un instant, vous retrouverez La Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. It don't matter why. About it now.